Chapitre 2. Mieux comprendre pour opérer dans la liberté. Si nous voulons exercer un ministère envers les malades, il est bon d'en comprendre certains aspects fondamentaux. En voici cinq qui, au cours de notre travail missionnaire, ont aidé des centaines de jeunes et d'adultes. Ces chrétiens ont pu ainsi entrer dans un service essentiel et passionnant. 1. Faire ce que Dieu fait et dire ce qu'il dit. Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Parce que le Père aime le Fils, il l'initie à tout ce qu'il fait. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 19. Voici deux affirmations qui éclairent le sujet que nous traitons. Tout d'abord, Jésus souligne clairement que, dans sa marche terrestre, il ne pouvait improviser ni miracle ni guérison. Il était parfaitement Dieu, mais, pour nous servir d'exemple, il demeurait comme un homme, dépendant des dons de l'Esprit pour accomplir les œuvres du Père. C'est ainsi que son premier miracle eut lieu à Cana, après avoir été baptisé d'eau et revêtu de la puissance de l'Esprit, et non durant son enfance comme voudraient l'enseigner certaines traditions. Un serviteur de Dieu, qui a formé des milliers de pasteurs dans le monde entier sur le sujet que nous traitons, affirma ceci. L'un des grands secrets appris durant mes années de ministère envers les malades est tout simplement de faire ce que le Père me dit de faire et de dire ce que le Père me dit de dire. J'ai découvert que lorsque je cherche sa pensée et qu'il me donne ses convictions, ce soir je veux guérir ou agir de telle manière, les résultats prennent une toute autre dimension. Quelques jours après avoir mieux compris cette pensée, je m'envolais comme évangéliste aux côtés de l'équipe musicale Visa pour une tournée de 18 soirées au Togo, au Burkina Faso et au Mali. Le sixième jour, Rolf Schneider, dirigeant de l'équipe, et moi-même recevions la même conviction. Ce soir, Dieu nous appelait à prier pour les malades. Il voulait les guérir. Le moment venu, nous avons fait comme d'habitude un appel à la conversion. Puis nous avons invité les malades et les souffrants qui le voulaient à s'avancer sur la scène. Nous avons alors expérimenté une action de Dieu comme aucun de nous ne l'avait jamais vue. Ce soir-là, et d'autres par la suite, Dieu soulagea ou guérit presque l'ensemble des personnes qui en firent la demande. Les souffrances disparaissaient ou diminuaient de manière sensible durant la prière. Ce fut pour moi un véritable tournant. Nous pouvons prier par tradition, par habitude, par désir personnel ou par nécessité, mais nous ne verrons jamais les mêmes résultats que si nous recherchons la pensée de notre Père. Nous ne sommes pas plus grands que Jésus. Nous pouvons donc dire avec lui, « Je ne peux rien faire de ma propre initiative. » Cela signifie-t-il que Dieu soit récalcitrant à guérir et à agir, ou encore que nous soyons condamnés à l'inaction? Non. Dieu agit plus et mieux que nous. Ses voies ne sont pas opposées, mais supérieures aux nôtres, meilleures que les nôtres. Nous n'avons inventé ni la compassion, ni la guérison, ni l'évangélisation. C'est lui qui nous les a fait découvrir et qui voudrait nous y initier. En effet, si nous revenons à la deuxième affirmation de Jean 5, verset 19, il nous est dit « Parce que le Père aime le Fils, il l'initie à tout ce qu'il fait. » Ce n'est pas à nous d'embarquer Dieu par tous les moyens possibles dans notre ministère. Mais c'est lui qui prend l'initiative de nous initier à son travail. C'est lui qui désire que nous portions du fruit, que les gens soient sauvés et guéris, mais c'est aussi lui le chef d'apprentissage. Le Père vous aime comme il aime Jésus. Il voudrait vous initier comme il l'a initié et agir aussi fortement et efficacement au travers de vous qu'au travers de Jésus. S'il s'agissait de nos œuvres, nous ne pourrions jamais le croire, mais s'il s'agit des œuvres du Père, il est évident qu'elles seront toujours dignes de lui. Les contrats de travail que Dieu nous donne sont tellement sages. Prenons l'exemple de celui que Jésus a proposé à Pierre. « Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 19. La responsabilité de Pierre était simple, le suivre. Si Pierre avait dû bricoler à sa façon pour devenir pêcheur d'hommes, le résultat aurait été médiocre. Quant à Jésus, sa responsabilité n'était pas de contraindre Pierre à le suivre, mais de faire de lui un pêcheur d'hommes. On retrouve ici le même principe. Moi, je ne peux rien faire de ma propre initiative, mais si je le veux bien, et parce que le Père m'aime, il va m'initier à ce qu'il fait. Un pasteur anglais très connu dans le domaine qui nous concerne s'est exprimé ainsi. Lorsque j'ai commencé à prier pour les malades, je voyais ma prière exaucée dans 10% des cas. Aujourd'hui, cette proportion est d'environ 60%. N'est-ce pas encourageant d'entendre le témoignage humble et concret de ceux qui nous ont devancés? Pierre était-il un expert après son premier mois de formation? Et pouvait-il devenir qualifié sans apprendre? Il en est de même pour chacun de nous. 2. La foi du malade est la foi de celui qui exerce le ministère. La foi du malade. Jésus a demandé aux deux aveugles qui le suivaient. « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 28. Il ne leur a pas demandé « Croyez-vous que je le ferai ?» Car la foi que Dieu demande au malade est de croire qu'il peut le guérir. Sa foi se manifestera par une demande, un cri, un déplacement physique vers le ministère disponible. La foi de Jésus se situait à un autre niveau. Il croyait non seulement que son Père pouvait guérir, mais qu'il allait le faire. En Marc 7, verset 31, on amène à Jésus un sourd muet. Pour le Seigneur, c'est la preuve que ces gens croient que Dieu peut le guérir. Leur démarche elle-même est la démonstration de leur foi. Le don spirituel, lui, va opérer par Jésus. En d'autres circonstances, le Seigneur va jusqu'à ressusciter un jeune homme par pure compassion, sans que la mère de celui-ci n'en fasse la demande. Évangile de Luc, chapitre 7, verset 13. Pourquoi n'est-il pas en train de torturer les malades, les accusant d'incrédulité et liant de pesants fardeaux sur leur tête? D'où lui vient cette prodigieuse liberté? Je crois qu'elle vient précisément de la distinction entre sa responsabilité et celle des malades. Jésus ne confond pas les rôles. Rempli de l'esprit et de la pensée de son Père, il exerce les dons spirituels avec une compassion, une liberté, une gratuité et un amour saisissant. En voici quelques exemples concrets. Jésus n'exige rien de la belle-mère de Pierre. Il la prend simplement par la main et la fait lever. Évangile de Marc, chapitre 1, verset 30. Il en est de même pour l'homme dont la maladie le fait enfler et que Jésus guérit un jour de sabbat. Évangile de Luc, chapitre 14, verset 1 à 6. Quand les hommes découvrent le toit pour en faire descendre le paralytique, Jésus voit leur foi. Avant même qu'aucune demande ou explication ne lui soit donnée, il déclare à l'infirme que ses péchés sont pardonnés. Cette réponse spontanée à la foi de ces hommes scandalise les personnalités religieuses qui aiment à obscurcir et alourdir les voies de Dieu. Mais Jésus fera encore un pas de plus et guérira le paralytique. Évangile de Luc, chapitre 5, versets 17 à 25. Un lépreux lui dira, « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Conformément à l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 2 à 4. Ce qui sous-entend, « Je ne sais pas si tu vas me rendre pur, mais je sais que tu as la puissance de le faire, et j'espère que tu le feras. » Voilà l'expression même de la foi du malade. Et Jésus de répondre, « Je le veux, sois pur. » Il exerce ainsi la foi par laquelle s'opère le miracle. Il est impossible que le don spirituel de la foi opère par un malade non chrétien, et il est rare qu'il se manifeste par un chrétien tremblant de fièvre au fond de son lit. Même les grands hommes de Dieu sont bien misérables, et parfois découragés quand la maladie les terrasse. Cependant, comme tout chrétien, ils peuvent faire appel aux anciens. Il est vrai qu'il existe de belles exceptions. Des chrétiens infirmes ou malades qui reçoivent seuls la certitude de leur guérison, conformément au livre des Actes, chapitre 14, verset 10. C'est évidemment une bonne chose que le chrétien malade nourrisse sa foi dans la parole et la communion avec Dieu. Mais la sagesse biblique nous montre habituellement des personnes dans le besoin, qui croient que Dieu peut les délivrer. Elles font alors appel aux membres du corps de Christ qui exercent en leur faveur un ministère. À Nazareth, par contre, les habitants ne croient pas en Jésus, doutant qu'il puisse les guérir. Ils ne remplissent donc pas leur cahier des charges, si bien que Jésus ne peut y exercer qu'un ministère limité. Évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 58. Nous parlons souvent de la guérison que Pierre et Jean ont opérée envers l'infirme placé à la porte du temple, en se demandant pourquoi Jésus ne l'avait pas guéri. Sans avoir toute la réponse, nous pouvons maintenant mieux comprendre. Nous lisons en Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 14. Jésus entra dans le temple. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus et il les guérit. Jésus n'a jamais couru après les malades pour les supplier d'accepter son ministère, contrairement à ce que certains chrétiens se croient tenus de faire. Mais il n'a jamais refusé son aide à ceux qui la lui demandaient. Nous ne savons pas si le boiteux guéri, en acte 3, avait côtoyé Jésus de près, mais nous pouvons penser que si cela avait été le cas, et s'il avait fait appel à lui ce jour-là, il n'aurait certainement pas fait exception dans la guérison collective décrite par Matthieu. Jamais dans les évangiles ou le livre des actes, nous ne voyons Jésus ou les apôtres accuser les malades se présentant à eux de manquer de foi. Cette pratique courante de nos jours est cruelle. Dire à un malade qui a demandé la prière, « Si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas cru », est une fuite, une accusation culpabilisante non fondée, une pratique religieuse dépourvue de toute compassion, une tradition étrangère à la parole de Dieu. Gardons-nous cependant de faire le procès de tel ou tel serviteur de Dieu, car vous qui lisez ces lignes, vous êtes précisément appelés non premièrement à rechercher le service des autres, mais bien à vous préparer à les servir. La sévérité de Jésus ne vise pas les malades, mais justement ceux qui exercent le ministère, ses disciples. Quand ceux-ci ne parviennent pas à aider un enfant tourmenté que son père leur a amené, le Seigneur ne demande rien à l'enfant. Il exhorte simplement le père à rester dans la foi, malgré l'insuccès du moment. Mais Jésus reprend les siens avec force. « Quelle race incrédule! Combien de temps est-ce que je devrais donc rester avec vous? Jusqu'à quand est-ce que je devrais encore vous supporter ?» Évangile de Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. Si, comme nous le savons, Jésus n'a pas utilisé sa divinité, mais les dons de l'Esprit pour opérer lui-même cette délivrance, ce passage démontre qu'il était spirituellement prêt à agir, contrairement aux disciples qui auraient dû l'être. Par contre, nous voyons Jésus exprimer son admiration face à la foi de l'officier romain. « Je vous le déclare, c'est la vérité. Je n'ai jamais trouvé une telle foi chez qui que ce soit en Israël. » Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 10. Il en est de même pour la femme cananéenne. « Oh, que ta foi est grande! Il te sera fait selon ce que tu désires. » Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 28. Dans ce dernier récit, Jésus lui-même ne semble pas disposé à exaucer cette femme, mais celle-ci a une certitude. Laquelle? Jésus peut délivrer sa fille. La foi de celui qui exerce le ministère, elle doit s'appuyer sur ce que Dieu dit, par sa parole et par l'Esprit. Pour illustrer cette pensée, imaginons que j'attende d'un ami qu'il me prenne en voiture devant ma porte. Le simple fait de savoir qu'il a le permis de conduire ne suffit pas. C'est sa parole. « Je te prendrai à 10 heures devant chez toi » qui nourrit ma foi. J'attends sa venue car j'ai confiance en ce qu'il m'a dit. Non seulement je sais qu'il peut me prendre en voiture, puisqu'il a le permis de conduire, mais à cause de sa promesse, je sais qu'il va le faire. Essayez d'avoir foi qu'il va passer me prendre à 10 heures avec la seule information qu'il a, le permis de conduire, est une entreprise désespérée. C'est pourtant ainsi que des multitudes de chrétiens prient pour la guérison de leurs semblables et ne voient de ce fait que de très maigres résultats. Ce n'est pas la foi espoir. Dieu peut le faire, mais qui obtient la réponse, mais la foi assurance. Dieu va le faire. La foi assurance implique obligatoirement une amitié, une communion en esprit avec Dieu. Il est impossible de croire en une parole que je n'ai pas entendue. La parole écrite en est le fondement, mais elle doit être vivifiée par l'esprit. Je sais que tu m'exauces toujours. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 42, sera l'expression de Pierre face à l'infirme dont nous venons de parler. Notons encore que ce dernier n'avait rien demandé de plus que l'aumône. L'objectif ne sera plus de prier comme des brebis sans berger et de terminer notre requête par le trop célèbre dicton « Si c'est ta volonté », mais d'écouter notre Dieu, de prier et d'agir selon sa volonté. C'est de sa parole que vient la foi, pas de la prière en soi. Sa parole est une semence de vie. La prière répand la semence, mais la prière n'est pas la semence. Une prière qui s'appuie sur elle-même est faible. Elle est souvent un cri de désespoir. Elle est assaillie par le doute. Celle qui émane d'une direction divine est pleine d'attente, souvent joyeuse et remplie d'espérance. Quand, pour ma part, j'ai compris cette perspective de responsabilité partagée, cela n'a pas engendré de fardeau, mais au contraire, une joie et une grande liberté. Pourquoi ? Parce que cela signifie que je peux me préparer, écouter la voix de mon Père et rechercher les œuvres qu'il a préparées pour moi comme ambassadeur du royaume. Je ne suis pas tributaire d'une prétendue foi préfabriquée que le malade devrait produire, et qui consisterait en une mixture de trois versets bibliques, une forte autosuggestion, un peu de patience, beaucoup de persévérance, une lutte désespérée contre le doute, un visage crispé d'extraterrestre, et que sais-je encore. Non, la foi du malade s'exprime essentiellement par sa demande, et la foi de celui qui exerce le ministère s'appuie essentiellement sur ce que Dieu lui dit. Alléluia. 3. Les guérisons instantanées et les guérisons progressives. Comme entrée en matière, voici deux exemples de personnes qui me sont proches et travaillent toutes deux à Jeunesse en mission. Marguerite Idiara dansait avec talent dans une pièce chorégraphique appelée « L'Ami » que nous présentions dans le cadre de grandes campagnes d'évangélisation. Le 5 juin 1988, elle fut victime d'un accident de la route dans lequel une personne perdit la vie et plusieurs autres furent grièvement blessés. Marguerite en sortit vivante, mais après 3 mois d'hôpital, elle souffrait toujours de terribles douleurs dans sa jambe droite. Les mois passèrent. Il n'était plus question de chorégraphie pour elle. En février 1989, en fin de soirée, elle se plaça dans la file de malades demandant la prière. Nous lui avons imposé les mains et après une brève prière, lui avons demandé comment elle se sentait. Elle balança sa jambe sans aucune difficulté et affirma être guérie. Nous lui avons alors demandé de revenir le lendemain pour nous donner des nouvelles. Elle revint donc et témoigna d'une guérison complète et instantanée. 6 mois plus tard, elle avait repris la chorégraphie. Voici un exemple type de guérison progressive. Salomon Hadzi venait de se marier quand, suite à un accident au Togo en octobre 1991, il se retrouva tétraplégique. Souffrant sans discontinuer, il entra dans un hôpital pourtant réputé, mais où l'on ne put rien faire pour lui. Le 7e jour, il fut rapatrié en Suisse et accueilli dans l'hôpital spécialisé de notre ville. Des centaines de chrétiens avaient déjà été mobilisés dans la prière. Les spécialistes déclarèrent qu'une opération aurait dû se faire dans les 8 heures qui avaient suivi l'accident. De nombreuses radios et un scanner ne signalèrent aucune fracture qui pourrait être à l'origine de la paralysie ou des douleurs. Seul le canal rachidien paraissait trop étroit, ce qui décida les médecins à entreprendre une intervention. En opérant, ils découvrirent dans la moelle épinière une fracture et de minuscules esquilles d'os, invisible à la radio. Les douleurs disparurent avec elle. les médecins se prononcèrent ainsi. 8 à 12 mois d'hospitalisation seront nécessaires et le patient doit se préparer à vivre dans un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Mais dès le lendemain, Salomon put bouger une phalange du pied gauche. Les progrès continuèrent lentement, mais constamment. 2 mois et demi après l'accident, il commença à marcher. 6 semaines encore et il put sortir de l'hôpital. 9 mois après l'accident et à la stupéfaction générale, il pouvait marcher plusieurs heures d'affilée. Après 11 mois, il reprit ses responsabilités au Togo. Il pouvait maintenant utiliser ses 4 membres, presque normalement, et porter le bébé que son épouse venait de mettre au monde. Actuellement, ils ont 4 enfants. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Je ne sais pas. Mais imaginez que nous ayons prié avec Salomon 1 jour après son accident et que nous lui ayons intimé l'ordre au nom de Jésus de se lever. En cas d'échec, nous aurions pu tirer des conclusions hâtives, culpabilisantes pour soi et pour l'infirme, et surtout fatalistes. Dieu ne veut pas le guérir. Prier pour un malade, c'est envoyer un message à Dieu. Que la réponse soit instantanée ou se fasse attendre, il faut rester confiant, comme une servante qui a les yeux sur la main de sa maîtresse, conformément au psaume 123, verset 2. La plupart des chrétiens qui ne saisissent pas ce principe sont tentés par 2 options malheureuses. Soit ils n'ont jamais le courage de prier ouvertement avec les malades, soit ils se sentent contraints à une prière ronflante, brève et sans suite dans la relation avec la personne. Quel dommage! Comprendre au contraire que Dieu guérit parfois sur le champ, parfois dans l'heure qui suit, parfois progressivement, nous donne une formidable liberté. Celle de rester dans la foi tout en accompagnant le malade dans une prière qui, individuellement ou en groupe, avec ou sans le malade, peut se prolonger sur plusieurs heures et plusieurs rencontres. Un médecin rempli de l'esprit est responsable des GBH, des groupes bibliques des hôpitaux, pour plusieurs pays, me disait qu'avant de saisir cela, il était terriblement gêné. D'une part, il se sentait conduit à prier avec plusieurs de ses patients. Mais d'autre part, lorsqu'il le faisait, il n'osait presque plus les visiter de peur de constater un échec. Depuis, il vit la prière d'une toute autre manière. Il est détendu, il sait qu'il a le temps et ne se laisse plus enfermer dans un rôle quelconque. Il marche dans la vérité et la transparence avec les souffrants qui l'accompagnent. Si le malade est guéri rapidement ou instantanément, il s'en réjouit et donne gloire à Dieu. Si la guérison est plus lente, il accompagne le malade avec compassion. S'il n'y a pas de guérison, le malade aura eu à ses côtés un être humain plein de sollicitude qui n'a pas joué le rôle du grand Manitou, mais qui, sans prétention, a pleuré avec celui qui pleure, souffert et partagé beaucoup d'amour. Je me trouvais à Bamako, capitale du Mali, pour une campagne d'évangélisation. Avec le responsable national de Jeunesse en Mission, nous avions prié jusque tard dans la nuit pour beaucoup de malades. Ce soir-là, rien n'avait été facile. Des personnes qui avaient des bras et des jambes tordus ou souffraient d'insomnie et de maux divers s'étaient approchées. Nous avions imposé les mains et prié nominativement pour chacune d'elles. Comme d'habitude, je leur avais demandé ensuite comment elles se sentaient, si elles pouvaient faire quelque chose qu'elles ne pouvaient pas faire avant la prière. Les réponses avaient été très largement négatives. Vers minuit, nous sommes repartis la tête basse, quelque peu découragés. Le lendemain soir, dès notre arrivée sur le lieu de la campagne, et alors que nous installions le matériel, se produisit ce qui ne m'est jamais arrivé en plus de 600 soirées d'évangélisation. Une première dame vint spontanément vers nous pour nous dire « Vous avez prié pour moi hier soir, et pour la première fois, j'ai pu porter aujourd'hui de l'eau sur ma tête. » Elle n'avait pas terminé qu'une deuxième dame intervint. « Aujourd'hui, j'ai pu puiser pour la première fois de l'eau au puits. » Une troisième, interrompant notre travail, affirma « Je n'ai pas eu besoin des 4 médicaments que je dois prendre quotidiennement pour ne pas souffrir. » Nous ne lui avions nullement suggéré d'abandonner ses médicaments, mais on n'en avait pas eu besoin. Finalement, une quatrième témoigna. J'ai dormi comme je n'avais pas pu le faire depuis des mois. J'aurais probablement déjà pu partager le principe de la guérison progressive avant de vivre cette seconde soirée, mais désormais j'en avais la preuve tangible. 4. Dieu confirme ce qu'on annonce, être connu comme priant pour les malades. Votre boîte aux lettres se remplit-elle de publicités d'astrologues, de guérisseurs, d'arnaqueurs en tout genre, promettant équilibre et santé? On nous propose autant de solutions qu'il y a de souffrances. Même les hôpitaux et les assurances maladies dérapent vers des pratiques plus occultes que scientifiques. C'est triste, c'est dramatique. Mais où est le peuple de Dieu? Où sont les églises ayant la renommée de prier pour les malades? Où sont les disciples de Jésus de Nazareth? Si votre voisin a des problèmes de santé, sait-il que vous vous sentez concerné? S'il développe le cancer ou est victime d'une crise cardiaque, peut-il compter sur votre prière? Comme dans tous les domaines, l'autre extrême existe aussi. Il se trouve des églises survoltées, des prédicateurs présomptueux, des chrétiens déséquilibrés qui, sans aucune sagesse, promettent-on ce qu'ils ne peuvent tenir. Ce n'est pas le propos tenu ici. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes consacrés, animés de vraie compassion pour une population malade et souffrante, des disciples ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires, des groupes de prière disponibles et connus pour porter les petits et grands problèmes de santé de leur entourage, de leur quartier, de leur ville. Beaucoup de chrétiens pensent « Je parlerai de la guérison quand Dieu m'emploiera dans ce domaine. » Mais Dieu leur répond « Quand tu parleras de la guérison, je t'emploierai dans ce ministère. » C'est ainsi que s'installe un discours de sourd. « Seigneur, va visiter cette personne, pose ta main sur elle, bénis-la, encourage-la, guéris-la. » « Mon fils, va visiter cette personne, pose tes mains sur elle. » Bénis-la, encourage-la, guéris-la en mon nom. Ce dialogue continuera jusqu'à ce que nous laissions à Dieu sa place et que nous prenions la nôtre. Oui, Dieu confirme sa parole, mais il nous faut avoir le courage de l'annoncer. Dieu ne confirmera pas ce que nous gardons secret. Est-il si difficile de dire à une amie ayant partagé son besoin, « Je fais partie d'un groupe de prière. Acceptes-tu que nous prions pour cela ?» Il se peut qu'elle refuse, mais aussi qu'elle accepte avec gratitude. Imaginez que chaque croyant de votre ville, en toute humilité, mais avec sérieux et vérité, se rende ainsi disponible. Imaginez que les sujets récoltés fassent l'objet d'une intercession fervente dans l'unité. Un grand nombre serait guéri. Ce témoignage produirait une croissance notable de conversion. 5. Au sujet du corps, ne pas confondre le temps présent avec l'éternité. Qui d'entre nous a reçu un corps nouveau lors de sa conversion? Il m'arrive de poser cette question à l'auditoire réuni et de constater que plusieurs mains se lèvent. La Bible enseigne qu'à la nouvelle naissance, nous recevons un esprit nouveau. Quant à notre âme, elle est restaurée, renouvelée dans notre relation avec Christ. Qu'en est-il alors de notre corps? Et même nous qui sommes chrétiens, bien que nous ayons le Saint-Esprit comme un avant-goût de la gloire future, nous gémissons en attendant d'être délivrés de la souffrance et du mal. Nous aussi, nous attendons avec impatience le jour où nous recevrons la plénitude de nos droits d'enfants de Dieu, ainsi que les nouveaux corps qu'il nous a promis, des corps qui ne seront jamais malades et qui ne mourront jamais. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 23. Le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, plein de faiblesses, il ressuscite plein de force. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 43. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 2. Notre corps actuel est imparfait. Il vieillit et mourra un jour, ou sera transformé au retour du Seigneur. Beaucoup de chrétiens, consciemment ou non, ne le comprennent pas ou ne l'acceptent pas. Ils pensent que d'une manière ou d'une autre, la marche par l'esprit, l'exercice des dons et le réveil spirituel les dispensent de tomber malade, de vieillir et de mourir. Certes, la marche par l'esprit est une bénédiction formidable pour notre corps terrestre, et Dieu fait des miracles bouleversants. Mais si nous nions notre nature terrestre, nous nous exposons à de grandes déceptions et serons source de division, de jugement à l'emporte-pièce et de condamnation. Le point traité ici est délicat. Il demande équilibre et réflexion. Nous allons en étudier plusieurs facettes pour essayer de mieux le cerner. A. La maladie. Examinons ce que les amis de Dieu tout au long de la Bible nous apprennent sur le sujet. Le patriarche Jacob. Vous auriez pu être celui que Dieu a appelé Israël, rempli de l'esprit au point de prophétiser sur chacun de vos enfants, et pourtant être gravement malade. Celui-ci, voyant sa mort approcher, convoqua tous ses fils, prophétisa sur eux, se recoucha et mourut. Conformément au livre de la Genèse, chapitre 48, verset 1 à 49, verset 33. Le prophète Élisée. Vous auriez pu être l'un des plus grands prophètes, ressusciter les morts, frapper d'aveuglement une armée entière, changer les lois de la physique, multiplier la nourriture, guérir le lépreux, être honoré par Dieu au point que vos propres ossements soient source de résurrection, et pourtant mourir malade. C'est ce que la Bible nous apprend d'Élisée. Deuxième livre des Rois, chapitre 13, verset 14. Le roi Ézéchias. Vous auriez pu être l'un des rois les plus fidèles du peuple élu, et cependant frôler la mort pour cause de maladie. Deuxième livre des Rois, chapitre 20, verset 1. Un ami de Jésus. Vous auriez pu être l'ami personnel de Jésus, le recevoir dans votre maison pour les repas et le logis, mais cependant mourir après une pénible maladie, durant laquelle vos messages au Seigneur semblaient sans réponse. C'est l'histoire de Lazare. Lui ne savait pas que Jésus le ressusciterait. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 1 à 44. De la parenté d'un apôtre, vous auriez pu être de la proche parenté de l'apôtre Pierre et tomber malade. Ce fut le cas de sa belle-mère. Évangile de Marc, chapitre 1er, verset 30 à 31. Dans l'équipe de choc de l'apôtre Paul, vous auriez pu faire partie de l'équipe missionnaire de Paul, et malgré cela, frôler la mort. Ce dernier écrit « Épaphrodite a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Honoré de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir. » Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 27 à 30. Trophime, un autre membre de l'équipe, avait dû rester à Milet pour cause de maladie. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 20. Le psaume 103 nous dit « Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. » Mais beaucoup lisent cette promesse ainsi « Je suis l'Éternel qui te garde de toute maladie. » Le psaume 41 affirme « L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. » De qui s'agit-il ? De celui qui prête attention aux faibles, qui a compassion des autres, celui-là est soulagé quand il est lui-même malade. Dans l'église de Jérusalem, celle-ci comptait peut-être plus de 20 000 membres. En effet, suite à la guérison miraculeuse à la porte du temple, le nombre des hommes, sexe masculin en grec, il pourrait donc s'agir de famille, a augmenté jusqu'à environ 5 000. Livre des Actes, chapitre 4, verset 4. Par la suite, sa croissance est encore soulignée à maintes reprises, et une foule de sacrificateurs vient à Christ. Livre des Actes, chapitre 5, verset 14, 6, verset 1, 6, verset 7. Jacques, auteur de l'Épître, Pierre et Jean étaient considérés comme des colonnes. Épître aux Galates, chapitre 2, verset 9. Dans cette assemblée, et pourtant, vous aviez le droit de tomber malade. Cette remarque peut surprendre, mais savez-vous que dans de nombreux milieux chrétiens, le pasteur va prêcher comme si de rien n'était et sans oser mentionner son état de santé, alors que sa place serait dans un lit d'hôpital? Pourquoi? Pour la simple raison que sa théologie et la pensée de sa communauté ou de sa dénomination considère que le fait de tomber malade est obligatoirement lié à l'incrédulité et au péché. Il n'en était nullement ainsi dans l'Église primitive que nous admirons tant. Jacques en parle avec une grande simplicité. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui et verseront de l'huile sur lui au nom du Seigneur. » Épître de Jacques, chapitre 5, verset 14. Au verset 15, le péché est mentionné, mais non comme une constante absolue. B. La mort. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie, nous dit Jésus, en Apocalypse 2, verset 10. Nous savons que notre passage sur terre est provisoire. L'aiguillon du désespoir de la mort a déjà été pour le croyant, mais elle n'est pas encore anéantie. Le temps dans lequel nous vivons inclut, même pour le chrétien marchant par l'esprit, la vieillesse et la mort. Ces dernières années, de nombreuses églises ont redécouvert les dons spirituels. Elles ont alors commencé à prier pour les malades de manière plus spécifique. Devant des cas de leucémie enfantine, de sida et autres situations, médicalement désespérées, une partie de l'église locale s'est mise à prophétiser la guérison. L'autre partie, moins catégorique mais tout aussi fervente, s'est également engagée dans la prière. Malgré cela, le ou les malades faisant l'objet de prières de guérison sont malheureusement décédés. Les croyants se sont alors accusés mutuellement, les uns disant « Vous êtes de faux prophètes, vous aviez annoncé la guérison et la personne est morte. » Et les autres rétorquant « Vous êtes des incrédules. Si vous n'aviez pas douté de la parole de Dieu, la personne serait aujourd'hui vivante et guérie. » Ces propos se sont parfois envenimés jusqu'à l'éclatement de la communauté. Cette situation, loin d'être exceptionnelle, est d'autant plus fréquente lorsqu'il y a confusion entre la marche par l'esprit dans un corps terrestre et la vie éternelle dans un corps céleste. Mon église d'Amboise a perdu son premier pasteur et, par la suite, la femme du second pasteur, tous deux emportés par un cancer. Ce furent des années très dures pour les fidèles qui, par ailleurs, voyaient de nombreuses autres personnes guéries miraculeusement. À Jeunesse en mission, à Lausanne, nous avons perdu une jeune missionnaire, pleine d'entrain, de 22 ans, qui avait, à vue humaine, un avenir prometteur. Nous avons prié pour elle avant de la visiter à l'hôpital. Le Seigneur nous a dit « Je vais la reprendre ». Nous sommes allés la trouver avec appréhension, sans savoir comment aborder le sujet. Mais c'est elle qui nous a devancés, nous affirmant avoir reçu la même conviction. Le Seigneur l'a reprise 3 semaines plus tard, sans que nous ayons de réponse à nos pourquoi. Nous évaluons les choses avec notre regard humain, mais Dieu ne partage pas la même vision. Il regarde les choses par rapport à l'éternité, et c'est pourquoi notre passage sur la terre peut être court, normal ou long. Notre responsable national au Cameroun est mort subitement à l'âge de 40 ans. À ce moment-là, son épouse attendait un quatrième enfant. L'œuvre pionnière a disparu avec lui. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Ses collaborateurs ont prié une nuit entière pour sa résurrection. Je crois qu'ils ont eu raison de le faire et je me serais joint à eux. Mais au matin, le Seigneur leur a fait comprendre que ce départ était définitif. Pour revenir à l'église de Jérusalem, à supposer que cette communauté et compter 20 000 membres, Elle a aussi connu 20 000 décès. Les quelques résurrections ont elles-mêmes été suivies de la mort naturelle. Elle a vécu ses enterrements, non parce qu'elle avait péché ou rétrogradé, mais simplement parce qu'elle était composée de chrétiens mortels. Elle n'a pas fait d'erreur de confondre le temps présent avec l'éternité. Plus de chrétiens qu'on ne le croit sont persuadés qu'un enterrement n'a lieu que par manque de foi. Dans leur pensée, si le pasteur était rempli de l'Esprit, ou si Jésus était physiquement présent, on n'assisterait pas à un ensevelissement, mais à une résurrection. Pourtant, Dieu lui-même a présidé à un enterrement, celui de Moïse. Deutéronome 34, versets 5 à 6. Si Dieu a enterré son serviteur et ami, nous pouvons certainement suivre son exemple sans nous sentir coupables. Certains évitent d'affronter la question de face par une sorte de pirouette spirituelle. Le Seigneur reviendra avant ma mort. Beaucoup l'espèrent, d'autres le sous-entendent, quelques-uns l'affirment ouvertement. Il est bon d'attendre le retour du Seigneur, et l'Esprit en nous dit « Viens, Seigneur Jésus ». Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Cependant, une doctrine peut en cacher une autre. Paul écrit dans une lettre à Timothée qu'il sait que l'heure de sa mort est proche. Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, verset 6. L'apôtre acceptait ce fait. Si un serviteur de Dieu avait pu écrire et prêcher que Jésus reviendrait avant sa mort, c'était bien l'apôtre Jean. Non seulement il avait bénéficié d'une prophétie personnelle de la bouche même de Jésus, en réponse à Pierre, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» Mais le bruit courait parmi les croyants qu'il ne mourrait pas. Jean profita-t-il de ces circonstances exceptionnelles pour s'échafauder une aura pseudo-spirituelle ? Non, il corrigea humblement la rumeur. Évangile de Jean, chapitre 21, versets 22 à 24. Une Église qui vit aujourd'hui pleinement le royaume de Dieu verra des résurrections, des miracles et beaucoup de guérisons. Mais elle aura aussi des ensevelissements douloureux et d'autres empreints de paix. Si nous ne sommes pas prêts à cela, nous nous exposons à des incompréhensions, des conflits et des divisions. La maturité nous permet d'accepter qu'une personne de 80 ans, atteinte d'une maladie incurable, soit guérie instantanément, tandis qu'un jeune homme de 15 ans soit repris. Cela veut-il dire que Dieu guérit les bobos et ne guérit pas les pires fléaux qui nous atteignent? Bien sûr que non. En étant attentifs aux témoignages qui nous parviennent, nous constatons que les interventions divines les plus incroyables se produisent. Cellules et membres recréés, y compris les nerfs, le liquide rachidien, les tympans, les yeux, les dents, et la guérison de toutes les maladies, sans exception. Concernant le corps, le miracle physique le plus stupéfiant dont j'ai entendu parler jusqu'à ce jour concerne un bébé né sans bras ni jambes, la tête pleine d'eau et la colonne vertébrale tordue. Il a été amené ainsi par sa maman pour la prière. L'homme de Dieu a posé ses mains sur la tête de l'enfant, qui est redevenu normal. Il a ensuite passé sa main le long du dos qui s'est redressé. Puis il a tiré légèrement sur chaque moignon, et les quatre membres se sont formés instantanément et complètement dans sa main. C'est un bébé sain qui a été rendu à sa mère. Pourtant, l'homme par lequel Dieu a opéré ce miracle porte un appareil auditif sur l'oreille. S'il avait dit « Seigneur, le jour où tu guériras ma surdité, je commencerai à prier pour les malades », il serait passé à côté d'œuvres glorieuses sans le savoir. Pourquoi n'est-il pas guéri? Je ne le sais pas. Mais Dieu l'utilise puissamment tel qu'il est. Bien que son être extérieur se détruise, la puissance de Dieu se manifeste dans sa faiblesse. Si vous observez l'entourage immédiat de grands hommes et femmes de Dieu, vous trouverez souvent ce genre de paradoxe. Puisse le peuple de Dieu comprendre ces choses, afin de grandir en sagesse et en puissance. C. Les accidents. Le livre de Job nous parle de la foudre et des ouragans qui peuvent tuer. Job, chapitre 1er, versets 16 à 18. La femme de Lot a été transformée en statue de sel. Absalom est resté suspendu aux branches d'un arbre. 42 enfants ont été mis en pièces par 2 ours. Les prophètes ont perdu un outil de travail. L'arche posée sur un char tiré par des bœufs a failli tomber. Genèse, chapitre 19, verset 26. 2 Samuel, chapitre 18, verset 9. 2 Livres des Rois, chapitre 2, verset 24 et 6, verset 5. 1 Chronique 13, verset 9. Le propos n'est pas de nous étendre sur les causes de ces événements dramatiques ou bénins, mais de souligner la lucidité de l'Écriture face aux dangers physiques bien réels qui nous entourent. De nombreuses précautions sont dictées au peuple Israël concernant les homicides involontaires, les taureaux susceptibles de tuer à coups de corne, les citernes à recouvrir, les effets néfastes de l'alcool sur les décisions importantes et l'enseignement, les risques d'incendie, les balustrades à installer autour des terrasses, l'hygiène collective nécessaire. Exode 21, verset 12, 20, verset 28, verset 33, Lévitique 10, verset 10 et 14, 8 à 9, Deutéronome 22, verset 8 et 23, verset 13 et 14. La connaissance du danger, la prudence, les précautions, les systèmes de protection, la sobriété, la prévention, l'hygiène et la bonne gestion de nos corps font naturellement partie de la vie en Christ. Les chrétiens qui pensent en être dispensés à cause de leur foi ou qui accusent d'incrédulité ceux qui prennent des mesures légitimes de sécurité s'exposent à bien des périls. Ils ont un corps terrestre, mais vivent comme s'ils avaient déjà leur corps céleste. Quand le diable proposa à Jésus de sauter du haut du temple, sous prétexte d'un passage biblique parlant de protection et interprété à sa manière, celui-ci lui répondit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 5 à 7. Paul, dans ses voyages, savait être en danger de mort. Il a vécu 3 naufrages, a dû affronter les rivières en crue, les déserts et le froid, conformément à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 27, et a été mordu par un serpent. Livre des Actes, chapitre 28, verset 3. L'un de nos responsables aux Philippines s'est fait attaquer par un requin lors d'une baignade et en est mort. D'autres équipiers ont été tués dans un accident d'avion. Un char russe a écrasé les 2 occupants d'une voiture de Médère sur la frontière tchétchène. Pourtant, combien de milliers de fois Dieu a fait des prodiges pour sauver ses enfants. Dans l'éternité, nous découvrirons qu'il nous a épargnés et protégés dans une multitude de circonstances et nous a guéris bien souvent à notre insu, avant même que les symptômes ne se manifestent. Quelle conclusion pouvons-nous tirer de tout cela? Nous sommes des gérants responsables et non des marionnettes. Dieu nous protège réellement, mais nous devons être tout aussi réellement prudents. La politique du tout ou rien, Dieu me protège, il ne peut rien m'arriver, ou Dieu ne fait rien, on doit se débrouiller tout seul, ne tient pas devant la sagesse de l'Écriture et les multitudes de témoignages traversant l'histoire et provenant de tous les continents. Faire notre part ou notre possible en comptant sur Dieu pour l'impossible semble plus proche d'une attitude biblique. Avant d'étudier la mise en pratique, résumons les points déjà abordés. Il me faut un fondement biblique pour agir avec assurance. Ma destinée est de ressembler à Jésus. Il a promis que si je crois en lui, je ferai moi aussi les œuvres qu'il a faites, et même de plus grandes. Comprendre et rechercher la pensée du Père. Il veut m'initier à ce ministère parce qu'il m'aime. Comprendre la différence entre la foi que Dieu attend du malade et celle de celui qui prie. Comprendre qu'une guérison peut être immédiate ou progressive. Comprendre que Dieu cherche des chrétiens connus comme priant pour les malades afin d'agir par eux. comprendre la différence entre notre corps actuel et celui que nous recevrons à la résurrection.